Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans La Cartouche, le podcast Blueprint qui parle d'un ou de plusieurs jeux vidéo suivant notre humeur. Je m'appelle Lou et je suis en compagnie de Yann, salut!
Salut Lou, salut à toutes, salut à tous, enchanté d'être avec vous et avec toi aujourd'hui pour parler d'un jeu que j'attendais depuis très longtemps.
Bien sûr, bien évidemment, et vous l'avez reconnu grâce à la musique, c'est bien sûr Donkey Kong Country, évidemment. Non, pas du tout, mais c'est vrai que c'est la remarque que je me suis fait la première fois que j'ai entendu cette musique, c'est vraiment, on dirait une sonorité Donkey Kong Country, enfin oui. Clairement, très clairement. Eh bien non, nous parlons aujourd'hui de Crash Bandicoot 4, It's About Time, effectivement. Il était temps qu'il sorte, et il est justement sorti sur PlayStation 4 et Xbox One il n'y a pas très longtemps, en début de ce mois d'octobre. Il est pressenti sur PC, peut-être sortira-t-il sur Switch, on ne le sait pas encore, mais on le souhaite en tout cas, moi, oui. Alors, pour commencer déjà, on va placer les bases, Crash Bandicoot 4, hein, c'est dans le nom. Il faut d'abord qu'on présente Crash Bandicoot. C'est quoi finalement un jeu Crash Bandicoot ?
Alors, je ne peux pas vous accuser de ne pas suivre les choses, puisque de vrais jeux Crash Bandicoot de plateforme qui soient sortis, le dernier, rappel, date de 98. Hein, Crash Bandicoot 3 Warped sur la première PlayStation, pardon, et en faisant abstraction évidemment des remakes plus récemment, il y a quelques années.
Tu mets un peu de côté aussi tout ce qui était passé sur Wii, tout ça, des titans, tout ça.
Mais il n'était pas bon. Ce n'était pas de très bons jeux, ou en tout cas, ce n'était pas de très bons jeux spécifiquement dans le gameplay vraiment pure plateforme de Crash Bandicoot. Là, tu fais référence Crash of the Titans et Crash Mutants, je ne sais plus quoi, qui avait déjà pris pas mal de beat 'em all dans la formule, un peu d'ailleurs à la manière d'un Sonic Unleashed, relativement à la même époque, mais pas avec le même développeur.
Il y avait un des deux que j'avais pas mal aimé, je me souviens, j'avais testé sur Gamekult. Je sais pas si je lui mettrais autant avec le recul, mais j'étais vraiment à fond sur ce jeu. Je crois que c'est Crash of the Titans. J'ai dû mettre 6 ou 7.
Pour le coup, la formule typique d'un Crash Bandicoot, c'est un jeu de plateforme avec la caméra vue derrière le héros. Il explore généralement en ligne droite un chemin qui parfois se divise en deux, mais globalement c'est un couloir géant dans lequel vous avez des ennemis évidemment qu'il faut éviter, voire parfois oxyre pour pouvoir continuer et progresser, des caisses, et vous avez un compteur de caisses qui signifie que vous allez être jugé, vous allez avoir différents bonus si vous réussissez à casser littéralement toutes les caisses du niveau, et enfin des boîtes là, mais pas des caisses normales, c'est-à-dire par exemple des boîtes de TNT ou des boîtes de nitroglycérine qui sont là aussi des pièges. Alors les boîtes de TNT, vous pouvez les faire sauter, il y a un petit compte à rebours de 3 secondes et vous fuyez, tandis que les boîtes de nitro, elles explosent au moindre contact. Crash n'a qu'un seul point de vie en temps normal, il peut toutefois avoir une protection avec un masque qui tourne autour de lui, le bon vieux, alors je les mélange toujours Uka Uka et Aku Aku, mais je crois que c'est Aku Aku qui est le positif et Uka Uka qui est l'antagoniste. Mais donc, vous pouvez récupérer un petit Aku Aku qui tourne autour de vous et là, ça vous fait un point de vie que vous pouvez gâcher. Sinon, évidemment, c'est le système de vie habituel. Vous ramassez des fruits qui sont dans les caisses. 100 fruits donnent une vie. Et si vous perdez toutes vos vies, eh bien, c'est game over et vous recommencez le niveau. Connais-ni les checkpoints. On les oublie si vous perdez littéralement toutes les vies restantes.
Alors le fact-checking, la carte, je confirme que Uka Uka est bien le méchant.
Yes ! Et je l'ai pas vérifié avant de faire l'épisode et je les confonds à chaque fois, donc je suis très fier de moi.
J'étais prêt à dire que c'était l'inverse, tu vois, j'étais persuadé que c'était Uka Uka le gentil finalement. Et non, c'est bien le méchant. Écoute, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite.
Oui.
Les jeux Crash Bandicoot sont réputés pour être des jeux quand même assez difficiles, assez exigeants. Est-ce que c'est le cas aussi dans cet épisode ?
Oui, je dirais même que par rapport aux 3 premiers Crash Bandicoot, d'une certaine manière, Crash Bandicoot 4 est plus difficile. Crash Bandicoot, le premier du nom, sur PlayStation, sorti si je ne fais erreur en 96, est mal balancé certains niveaux que les gens ont en mémoire maintenant, notamment tout le niveau où on gravit une grande paroi dans la jungle, une grande paroi en bambou est extrêmement difficile alors qu'il arrive relativement dans le jeu. Également celui où on traverse un pont qui revient deux fois d'ailleurs, qui revient une deuxième fois dans une version difficile avec des planches du pont qui se cassent la figure quand on marche dessus ou quand on les effleure, sont réputés être difficiles dans ce Crash Bandicoot de 96. Là, d'une certaine manière, il est plus exigeant parce que les niveaux sont plus longs, qu'il y a plus de choses trap et que le couloir dans Crash Bandicoot 4 est plus plus large. Évidemment, ça c'est dû aussi à la puissance de la PlayStation 4 comparée à celle de la première PlayStation. Il y a plus de marge de manœuvre pour avoir des niveaux plus ambitieux. Eh bien, ils le sont carrément et ça rend le jeu plus difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que les développeurs de ce nouveau jeu, Toys for Bob, à qui on doit notamment l'adaptation d'une autre licence Naughty Dog qui est passée dans les mains d'Activision, c'est-à-dire Spyro le Dragon. Toys for Bob, c'est ceux qui ont du coup fait les remakes de la trilogie Spyro sur console moderne assez récemment. Je crois que c'était l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou il y a deux ans. Toys for Bob, donc, qui développe ce Crash Bandicoot 4, a fait le choix d'introduire un mode moderne, qui est d'ailleurs proposé par défaut. Quand on lance le jeu, il nous dit est-ce que tu veux le mode moderne ou le mode rétro. Le mode rétro, c'est le fonctionnement des vies et des game over, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Vous perdez toutes vos vies, vous recommencez le niveau à zéro. Tandis que le mode moderne enlève le concept de vie. La seule chose qui est comptabilisée, ce sont vos morts, exactement comme le fait par exemple Céleste. C'est-à-dire que vous avez un petit compteur à chaque fois que vous mourrez qui s'incrémente de 1. Et ça permet d'être un peu moins frustrant et de bien balancer avec cette difficulté, parce que comme dans Céleste, vous allez vous retrouver à perfectionner des segments de niveau, puis à terminer ces niveaux. Généralement, un niveau du jeu, vous mettez 10, 12, 15 minutes à le faire, suivant encore une fois votre dextérité et suivant à quel point vous êtes avancé ou pas dans le jeu. Ceci étant, le dernier niveau du jeu avant le dernier boss, je peux vous dire, celui-là, c'est plutôt de l'ordre d'une grosse demi-heure. Hein. Il est hyper retors, le dernier niveau.
Donc en gros, vous l'avez compris, vous ne mangez pas vos morts, vous les comptez.
Exact.
Toys for Bob, puisque tu l'évoquais, oui. C'est aussi un des studios qui est à l'origine de la licence Skylanders. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une influence de la part de ce jeu, en dehors du fait que l'on croise des Skylanders à différentes occasions en termes de décor ?
J'en ai pas vraiment l'impression. Alors c'est marrant parce que dans une fête foraine, on croise aussi un Spyro géant sous forme de ballon, oui. Tu sais, comme la Mayfair Parade, je crois que c'est à New York, hein, ou également les parades au Japon, où tu as ces énormes, par exemple des Pokémon ou d'énormes personnages gonflés d'hélium qui se baladent dans les rues.
Détective Pikachu.
Oui, alors évidemment, mais aussi dans la vraie vie.
Aussi dans la vraie vie. Mais je veux dire, c'est toute l'intrigue du film.
Il est vrai.
Pikachu repose dessus.
C'est un des MacGuffin. Mais pour le coup. Non, pas véritablement, c'est-à-dire pas dans le gameplay, il n'y a pas du Toys for Life, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites figurines à collecter qu'on peut activer sur la machine, et il n'y a pas de logique de microtransaction ou d'achat à part, en tout cas au moment où on fait cette critique, au moment où on enregistre cet épisode, ça n'a pas été fait. Il faut rester prudent, cela dit, puisque dans le cas de Crash Team Racing, les premières semaines du jeu, il n'y avait pas de microtransaction, et ensuite, boum, boulou, boum, c'est arrivé lors d'une mise à jour quelques semaines après la sortie du jeu. Donc malheureusement, avec Activision, on ne sait jamais. Reste que pour l'instant, non.
Alors, malgré toutes ces difficultés, comme tu l'as évoqué un peu plus tôt, oui. Est-ce que tu en es où dans le jeu ? Est-ce que tu as réussi à t'en sortir ?
Je l'ai terminé en 8
oh,
heures. Je l'ai
en
terminé
8 heures.
En 8 heures. Alors, en ligne droite. Hein, ça
c'est pas si dur que ça, alors. Non, mais 8 heures, tu l'as fini, franchement.
Oui, oui, mais j'ai eu envie de casser
ma DualShock. Oui, mais je suis un champion.
Alors déjà oui, parce que j'ai fait la trilogie en HD une fois sur PS4, une fois sur Switch, donc s'il ouais. vous plaît. J'ai également fait Warped, donc le troisième. Je l'avais acheté à l'époque, c'était sur ma PSP, qui émulait les jeux PS1 qui pouvaient se télécharger sur le PlayStation Store. Et c'était vachement cool. Sony, si tu m'écoutes, de nouveau pouvoir acheter les jeux PS1 comme ça, ce serait sympa. Mais voilà, c'est un petit peu mon passif avec la licence, ce qui fait que j'ai quand même l'habitude de ce genre de choses, et j'ai l'habitude des jeux de plateforme exigeants. Hein. Je suis assez friand de choses comme Super Meat Boy, comme Céleste, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai même quasiment terminé l'immonde jeu de Edmund Macmillan, The End Is Nigh, qui est vraiment horriblement difficile, horriblement punitif, bien trop pour son propre bien. J'ai quand même un peu de passif. Je ne suis pas un virtuose, je ne suis pas un speedrunner, mais j'ai la patience et avec suffisamment d'entraînement, j'ai quand même plus ou moins les skills. Mais franchement, il est difficile et c'est 8 heures où, il y a des fois où j'ai recommencé des niveaux. Enfin, encore une fois, le dernier niveau, je l'ai recommencé 67 fois. Je suis mort 67 fois dans le dernier niveau du jeu, pour donner un exemple. Donc, c'est pas de tout repos du tout. Et il y a beaucoup de niveaux dans le jeu, pour le coup. On compte 43 niveaux normaux. On compte également des versions inversées, enfin une version inversée par niveau, c'est-à-dire une version en gros où toutes les textures disparaissent et vous voyez le monde qu'à travers une sorte de sonar. Crash devient un sonar, à chaque fois que vous vous appuyez sur le bouton tourbillon, donc le bouton d'attaque, vous avez une sorte de vague de lumière lumière qui vous permet de savoir un petit peu ce qu'il y a autour de vous, ou alors quand vous attrapez un bonus ou que vous battez un ennemi, ça a le même effet. Et vous devez explorer ces niveaux-là avec d'autres secrets et également l'idée de faire le petit complétionniste et de récupérer tous les fruits, de casser toutes les boîtes, etc., etc., avec aussi une gemme qui est cachée à un endroit différent que dans la version normale du niveau. Et puis, dans les niveaux, il y a également des cassettes flashback. Et mon cher Lou, tu vas me demander qu'est-ce que c'est qu'une cassette flashback ?
Mais qu'est-ce que c'est qu'une cassette flashback ?
Alors, il y en a 21 dans Crash Bandicoot 4. Merci de m'avoir posé la question.
Mais je t'en prie.
C'était très spontané. Une cassette flashback, alors c'est aussi un petit peu lié avec le trip nostalgique de Crash Bandicoot 4, donc qui est vraiment une suite logique des trois premiers. Une cassette flashback permet de revenir dans le passé, à l'époque avant Crash Bandicoot 1, où le docteur, le méchant docteur Neo Cortex, expérimentait sur divers animaux pour s'en faire une armée méchante, un peu à la manière d'un Robotnik dans Sonic. Et vous allez contrôler Crash dans le repère de Neo Cortex en train d'essayer de résoudre des petits puzzles, en tout cas des petits puzzles de plateforme, des petites séquences de plateforme extrêmement difficiles mais extrêmement courtes. Et pour les débloquer, ces cassettes flashback, il faut les atteindre dans les niveaux, et pour les récupérer, il faut atteindre là où elles se trouvent sans mourir une fois. Donc on voit l'intérêt de la chose en fait, parce qu'on peut faire le jeu en ligne droite et arriver à la fin, arriver au boss de fin et le battre en mourant autant de fois qu'on veut, quand on active notamment le mode moderne, ce que je conseille de faire honnêtement. J'ai joué en mode rétro pendant un moment, mais c'est devenu suffisamment frustrant d'avoir des game over et de perdre ma progression dans un même niveau, donc j'ai activé le mode rétro à peu près au premier quart ou au premier tiers du jeu. Et on peut le faire comme ça en ligne droite, mais si on veut vraiment tout jouer, tout débloquer, faire les épreuves les plus difficiles, eh ben, il faut se pousser et rejouer au niveau sans mourir jusqu'à une certaine étape, c'est pas nécessairement jusqu'à la fin, mais pour revenir à ce fameux dernier niveau du jeu, avant le dernier boss, la cassette flashback qui s'y trouve, je peux te dire qu'elle est super tard et que jamais de ma vie je vais récupérer une horreur pareille.
Donc là, c'est abandonné quoi. C'est...
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a suffisamment de challenges dans ce jeu-là pour ceux qui ont passé les 20 dernières années à plier les trois premiers Crash Bandicoot et à se dire j'en veux plus. Les gens qui font les courses aux reliques, les gens qui essaient d'avoir le meilleur timer dans le mode chrono qui existe également là aussi là-dedans, hein. Tous les niveaux peuvent être faits en chrono, que ce soit dans leur variante normale ou dans leur variante inversée. Tout ça est présent et le challenge est là. Que vous soyez un plutôt bon joueur de jeu de plateforme ou un excellent joueur de jeu de plateforme.
Bon, tant mieux. 22 ans après la fin de la trilogie, quand même, c'est énorme, il faut le dire. Qu'apporte du coup concrètement, parce que quand même en 22 ans, il y a de quoi apporter davantage en termes de gameplay notamment.
Oui, bah des nouvelles. Alors déjà, ce que je disais tout à l'heure par rapport au mode moderne, c'est-à-dire une nouvelle approche par rapport au game over et au nombre de vies qui, à mon avis, est extrêmement sain. Toys for Bob, à mon avis, a beaucoup appris de jeux comme Super Meat Boy et comme Celeste. Et ça se voit justement dans cette approche-là, ce qui leur permet de rendre les niveaux plus longs et plus difficiles, mais en même temps permet de mieux répartir la difficulté, on va dire, de checkpoint en checkpoint. Dans le level design et dans les mécaniques de contrôle de Crash maintenant, il y a deux trois petites choses qui changent. L'une d'entre elles, c'est des nouveaux power-up, quatre d'entre eux, un qui permet d'inverser la gravité, un qui permet de ralentir le temps, c'est très fun à faire, et il y a de bonnes idées justement de level design qui vont avec. On a également un qui vous permet de faire une tornade un peu façon Taz, l'animal de Tasmanie, et de tout littéralement défoncer sur votre passage, mais ce qui pose un autre problème, c'est-à-dire que du coup les caisses de TNT deviennent immédiatement létales comme des caisses de nitro, donc il faut aussi là bien les éviter, ou alors arrêter sa super tornade, rebondir dessus puis redéclencher sa super tornade. On retrouve le double saut de Crash Bandicoot 3, ça aussi c'est important, parce que ça donne une meilleure marge de manœuvre aux joueurs dans ces environnements encore plus difficiles. Il n'y avait pas de double saut dans le premier, il n'y avait pas de double saut dans le deuxième, mais voilà que cette idée-là revient et honnêtement est mieux implémenté, le double saut est mieux implémenté dans Crash 4 que dans Crash 3. La physique offre plus, on va dire, de marge de manœuvre aux joueurs, et ça c'est vraiment agréable. Donc on a ces éléments là il y a deux autres masques, deux autres pouvoirs qui sont des pouvoirs temporaires, hein, qu'on rencontre sur certains segments de niveau, avec lesquels il faut parfois jongler pour résoudre certains défis de plateforme un peu difficiles, mais qui, à mon avis, fonctionne bien et qui s'inspire un petit peu de VVVV sur celui, par exemple, où on inverse la gravité, un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais qui le fait à sa manière, qui le fait bien, et surtout qu'il l'adapte à la sauce Crash Bandicoot, qui est celui du platformer tantôt de couloir, tantôt de 2,5D où c'est vu de face, il n'y a pas de profondeur. Le jeu alterne toujours entre ces deux présentations-là. Et comme c'est la même physique et comme c'est les mêmes défis de plateforme mais vus différemment, d'un côté vu de derrière et de l'autre côté vu de côté, vu de profil, en fait ça marche bien, honnêtement, et il n'y a pas beaucoup de redites en termes de level design et en termes d'idées de gameplay, ce qui est franchement plaisant pour encore une fois un jeu qui s'étend quand même sur 8 heures en ligne droite. Pour un jeu de plateforme c'est pas évident, 43 niveaux uniques, là aussi pour un jeu de plateforme, on va dire, de l'ambition de Crash 4, c'est-à-dire vraiment des niveaux qui partent d'un point A qui finissent à un point B, et finalement oui on peut les revisiter pour faire un 100% ou pour faire la version invertie, mais en tant que tel c'est un peu des niveaux à usage unique. C'est des très bons niveaux à usage unique.
Et le fait de pouvoir incarner un trio, justement, est-ce que ça apporte quelque chose?
Alors là tu parles de quelque chose qui change un petit peu là aussi des trois premiers Crash Bandicoot, parce que évidemment il est possible d'incarner Crash ou Coco, qui est sa sœur, et il est possible de leur faire porter des petits costumes qu'on peut débloquer justement en fonction du nombre de fruits qu'on a récolté. Là c'est un changement par rapport aux trois premiers, c'est que les fruits servent enfin à quelque chose d'autre que de donner des vies. D'ailleurs quand vous jouez en mode moderne, vous n'avez plus de vie, donc en soi les fruits ne serviraient à rien. Ils vous servent selon un certain palier de nombre de fruits que vous avez récolté dans les boîtes et dans la nature en général et en battant les ennemis, à débloquer des gemmes qui elles-mêmes vous permettent de débloquer des costumes. Donc c'est chouette, c'est une idée intéressante encore une fois pour les complétionnistes et pour les gens qui aiment bien habiller leurs personnages avec des costumes rigolos. D'ailleurs c'est marrant parce que toutes les cinématiques tournent dans le moteur, ce qui signifie que les costumes apparaissent également dans le moteur et dans les cinématiques, donc c'est assez rigolo. Là-dessus sur le trio, c'est un autre truc parce que effectivement on peut jouer avec Crash et Coco, mais il y a aussi quelques niveaux, un ou deux par monde, où on va jouer non pas avec les protagonistes, nos deux bandicoots, mais avec, par exemple, le docteur Néocortex.
Ah.
Ou par exemple, Dingo Dile, qui était un boss ennemi, mais qui est devenu un personnage plus aligné neutre dans Crash 4. Ou aussi un personnage positif, la petite amie de Crash, Tona, qui n'a existé que dans le premier et qui a ensuite largement disparu du radar avec Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 3. Tona réapparaît dans une version redesignée puisqu'en fait elle vient d'un autre univers. Et je tiens à le dire ici, je veux un jeu entier avec Tona. Autant le gameplay de Dingo Dile ou de Dr. Néocortex est pas hyper intéressant, ça passe, et c'est pour quelques niveaux donc c'est pas un problème, mais on peut pas en faire un jeu entier dessus. Je veux dire, Dingo Dile, il a un gun qui lui permet également de faire aspirateur un peu à la manière de Luigi dans Luigi's Mansion, c'est-à-dire qu'il peut à la fois tirer à lui par exemple des caisses qui sont loin dans le décor, inaccessibles, etc., ou alors s'en servir de manière répulsive pour faire un double saut avec, et un double saut un peu prolongé à la manière de Peach quand elle reste en l'air, quand on laisse un bouton appuyé, donc ok. Et de l'autre côté, Dr. Néocortex, il a pas de double saut mais il a un gun et il a une projection en avant si on appuie sur un certain bouton. C'est pas... ça révolutionne pas le jeu de plateforme. Ce que je trouve intéressant avec Tona, au-delà du fait d'avoir transformé un personnage qui était vraiment la bimbo en détresse, mais marsupial, donc évidemment un côté également un peu furie dans l'affaire, ce qui est intéressant avec Tona, c'est qu'au-delà d'avoir, on va dire, quand même pas mal réduit le côté gratuitement sexualisé du personnage, même si c'est pas complètement réglé, c'est quand même beaucoup mieux que le personnage aux formes caricaturales de l'épisode de 96. Au-delà de ça, ils lui ont donné une vraie personnalité d'exploratrice badass. Ils lui ont donné, l'actrice d'ailleurs qui fait la voix de Tona dans la version française, ça colle très bien, bravo. Et puis en termes de gameplay, elle fait des wall jumps, elle a un grappin qui lui permet de se projeter un peu plus loin, soit d'accrocher des caisses qui sont là aussi inaccessibles, soit de pouvoir simplement passer à une autre corniche. Elle a un high kick au lieu de la tornade de Crash, et je trouve que c'est une palette de mouvements assez sympa, que les niveaux sur lesquels tu joues Tona finalement soient assez intéressants, et la façon dont tout ça est intégré d'ailleurs dans Crash 4 fonctionne bien parce qu'en fait la raison pour laquelle ces personnages sont là, au-delà des raisons scénaristiques, c'est qu'en fait, de temps en temps, Crash Bandicoot, il va lui arriver un truc horrible, puis tout d'un coup, il comprend pas pourquoi, mais il a énormément de chance. Genre le truc qui devait lui exploser sur la tronche et dévier à la dernière minute, ou l'ennemi qui devait lui rouler dessus, en fait, bah, son véhicule, il est bloqué au niveau des roues d'une certaine manière. Et en fait, en jouant avec ces autres personnages, en jouant leur aventure... qui se déroule en parallèle, on va comprendre pourquoi est-ce que Crash a été sauvé d'une certaine manière.
C'est génial. Je trouve ça hyper intéressant en termes
de narration.
Ce qui est
amusant. Parfois c'est un peu tiré par les cheveux.
Ouais. Mais voilà. C'est cool. C'est cool. J'aime bien ce genre de délire.
C'est peut-être la seule déception un petit peu de ce côté-là, parce que dans pas mal de ces niveaux-là, justement, on va jouer Neo Cortex, ou on va jouer Dingodile, ou on va jouer Tona. La première partie du niveau, c'est cette séquence où on les joue eux, et où on va sauver Crash et Coco, mais ensuite le niveau n'est pas terminé, parce qu'en fait on va jouer Crash et Coco, ça passe à Crash et Coco au moment où ils ont été sauvés par l'un des trois autres personnages, et ensuite on va faire la même fin de niveau dans lesquels ils étaient intervenus, donc la même fin de niveau traditionnel Crash et Coco, mais avec par exemple quelques caisses explosives en plus, quelques obstacles en plus, quelques ennemis en plus, quelques trous en plus dans le terrain, et c'est un poil répétitif. Ça, c'est un poil dommage, c'est vrai, d'avoir de nouveau les mêmes challenges de plateforme, mais en légèrement plus dur, surtout quand on les fait 5 minutes, 10 minutes après avoir fait le challenge en question. Ça, c'est un petit peu dommage, à mon avis. Mais au-delà de ça, l'idée est bonne et assez bien amenée, je trouve. Et puis, franchement, le moveset, le personnage qu'ils ont réussi à faire avec Tona, honnêtement, Toys for Bob, un spin-off Tona Bandicoot, quand c'est une vraie question, et je souhaiterais qu'on me réponde.
Est-ce que le mode multi vaut quelque chose, du coup?
Alors, ça, c'est assez rigolo, parce que oui, il y a un mode multi dans un jeu de plateforme comme celui-là. Alors, au début, je me suis dit, bon, un mode multi, peut-être que c'est un espèce de mini-jeu de combat, un peu débilos, où on se tire la bourre, chacun a 3 points de vie, et puis voilà, on utilise les différents personnages, on se tire dessus avec Neo Cortex, on se saute dessus, on se tourbillonne dessus avec Crash et Coco, etc. Ben non, en fait, c'est simplement un mode, alors en anglais, on appelle ça le hot seat, c'est quand on se passe la manette. C'est un mode, passe-toi la manette, où chacun joue, et l'idée, c'est de réaliser le meilleur temps ou de frapper le plus de caisses possible, etc., etc. Et l'idée, c'est que, un peu à la manière du mode multi local de Burnout Paradise, par exemple, l'idée est celui qui a fait le meilleur score parmi les 2 à 4 personnes qui jouent comme ça en se passant la manette, gagne. C'est pas dingo dingue. Alors, il y a le fantôme qui apparaît, le fantôme des autres joueurs, ce qui donne quand même un petit côté compétition assez rigolo, mais en tant que tel... Il faut réunir 2 à 4 personnes en local qui ont envie de faire ça, et je vois pas trop l'intérêt, d'autant que tous les niveaux sont débloqués. Alors ça paraît positif, hein, quand on démarre le jeu, mais ça veut aussi dire que si on va faire un tour dans ce mode-là avant de jouer au jeu en solo, ben on va se spoiler sur les thématiques des différents niveaux, ce qui est un petit peu dommage.
Ok, on va partir un petit peu sur la réalisation maintenant. Alors
oui.
Moi, je trouve à titre personnel que le jeu est quand même superbe, je trouve très très beau. Quel est ton point de vue du coup déjà sur le côté graphique?
C'est un digne jeu de fin de génération. Je trouve qu'ils ont fait, d'un point de vue purement artistique, un joli travail pour à la fois ne pas refaire ce qu'a fait Vicarious Visions avec le remake de trilogie. Enfin, vraiment, ils sont arrivés à quelque chose d'intéressant. C'est justement pas aussi moche que Crash peut l'être dans d'autres jeux. Skylanders, je m'en souviens plus très bien, mais en tout cas la tronche qu'il a dans les jeux dont on parlait tout à l'heure, les Mutants et Tutti Quanti, visuellement c'est pas hyper attractif. Là, ils sont arrivés à un style un peu plus cartoon, mais je trouve qu'il fonctionne assez bien. Et certains mondes sont vraiment, enfin, je pense notamment aux mondes de neige qui sont extrêmement cosy. Moi, visuellement, à certains points, ça m'a un petit peu rappelé Rayman 2, mais évidemment modernisé. Ce jeu-là ressemble à ce que pourrait être un Rayman 2 en 2020. Il y a notamment un niveau qui rappelle beaucoup le monde du Bayou dans Rayman 2, avec le côté voilà, boue et étang vert saumâtre dégueulasse un peu partout. C'est totalement ça, pour le coup. Le niveau de neige, pareil. On est dans une relative même esthétique, c'est-à-dire à la fois très coloré, très chatoyant, mais en même temps frappadingue, un peu comment dire, visuellement, ben voilà, c'est Crash quoi, c'est censé être détonnant et un peu stupide, et ça remplit complètement ça. Maintenant, c'est joli, mais il faut qu'on parle des performances du jeu, et notamment qu'on parle des performances du jeu en fonction des consoles. Alors, j'ai fait des observations moi-même. Je les ai fait sur ma PlayStation 4, donc la PlayStation 4 originale. Et j'ai également regardé la vidéo de Digital Foundry à ce sujet-là, qui a complètement confirmé ce que je pensais. Le jeu tourne dans un framerate. Alors, le terme qu'on utilise, c'est uncapped, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité. Autrement dit, il y aura autant d'images par seconde que la console peut en générer. Ça veut dire que le jeu sur PlayStation 4 de base, il tourne à peu près à 50 images par seconde. C'est-à-dire pas 30, pas stable et pas 60 non plus. Donc il tourne normalement à 50 images par seconde, mais parfois il baisse. Et quand vous jouez au niveau en mode inversé, bah, comme il n'y a pas de texture, il y a beaucoup moins d'effets à traiter, bah, là il tourne en 60 images par seconde hyper fluide. Et évidemment, dans certaines cinématiques ou par rapport à certains ennemis géants ou dans certaines séquences de jeu, le framerate il va atteindre 30, il va peut-être même parfois baisser un petit peu plus. Donc c'est instable. J'ai pas trouvé ça trop gênant pour jouer au jeu, mais comparé à la performance nickel chrome qu'il peut y avoir sur Xbox One X ou sur PlayStation 4 Pro où c'est quasiment du 60 images par seconde littéralement tout le temps, il y a une vraie différence. Et les rares moments où j'ai pu jouer en 60 images par seconde dans les niveaux inversés, j'ai senti la différence et j'ai trouvé ça hyper agréable. Donc moi je reçois, parce que je l'ai précommandé, une PlayStation 5 relativement bientôt quand elle sortira le 19 novembre si ma mémoire des dates ne me fait pas défaut, je serais très heureux de voir ce jeu là justement tourner sur une PS5 qui a une PS4 Pro plus, et de voir bah, ce jeu-là tourner en vrai 60 images par seconde, vraiment bien propre. Je pense qu'ils auraient mieux fait de le limiter à 30 et qu'il soit stable. Honnêtement, la PS4, on avait le potentiel. Et ça, c'est extrêmement dommage. Pour avoir rejoué justement un petit peu à la trilogie remasterée sur ma Switch, c'était plus agréable visuellement de voir ce framerate, ce nombre d'images par seconde stable sur un jeu qui tournait sur ma Switch, qui est une adaptation d'un jeu PS4 Xbox One, que de jouer à ce jeu-là sur PS4, sur son support qui est censé être son support d'origine. Donc honnêtement, on voit encore une fois, c'est un des nombreux prix à payer d'une génération de consoles qui était divisée en deux avec un modèle pro et un modèle normal. La pire console sur laquelle le jouer paraît-il, c'est la Xbox One avec du framerate qui là par contre aussi entre du 30 et du 40. Images par seconde, ce qui est encore moins bon. Voilà. Donc, il y a clairement ce problème-là, et si vous n'avez pas une PS4 ou une Xbox et que ça vous pose problème, franchement, c'est une bonne raison, soit pour attendre si jamais vous avez prévu de prendre une Xbox Series X, une Xbox Series S ou une PS5, ou alors d'attendre qu'il sorte sur PC, ou alors peut-être d'attendre qu'il sorte sur Switch et qu'au moins il a un framerate plus stable, même si son framerate maximal sera plus bas, ou alors simplement de ne pas le prendre et voilà.
Bon, écoute, c'est dommage quand même, quand t'arrives comme ça en fin de génération, où tu dis que la console est un peu plus maîtrisée et tout.
Oui, la console est maîtrisée, la version pro.
Ouais, oui, voilà. C'est
triste.
Bon, écoute. Vivement la prochaine génération. Bon, alors du coup, est-ce que ce Crash Bandicoot 4 est un digne héritier de la trilogie originale que tu portes dans ton cœur ?
À mon avis, oui. Très honnêtement, à mon avis, oui. C'est un jeu qui est par moments injuste. Il y a certaines hitbox, détections de ce qui est considéré comme étant frappé un ennemi ou l'ennemi vous a frappé ou vous avez atteint la bonne zone pour vous rattraper sur la corniche ou pas, vers la fin du jeu et notamment vers ce foutu dernier niveau, ça devient assez injuste à certains endroits. Mais globalement, ça a toujours été le cas avec la série des Crash Bandicoot. Il y a toujours eu une zone un peu mal foutue, une physique un peu mal équilibrée de ci, de là. À ce stade, je pense que ça fait partie de la licence. Je dis pas que c'est un aspect positif. Je dis juste que malheureusement, ça vient avec le marsupial. Derrière ça, oui, c'est clairement une intelligente relecture, on va dire, de la série et du gameplay de Crash en 2020. Ce jeu fait énormément de bons choix, bien plus que d'autres jeux, par exemple sur PlayStation 2, ont tenté de le faire, ou ensuite avec des adaptations où là, carrément, le genre plateforme pure a été abandonné par les développeurs qui se sont retrouvés à écrire les jeux suivants. Donc, il mérite son titre de Crash Bandicoot 4, et à mon avis, il appelle un Crash Bandicoot 5, mieux optimisé pour les consoles sur lesquelles il sort, avec un peu plus, encore une fois, de variété peut-être sur les personnages à contrôler, parce que je pense que ce qu'ils ont fait avec Tona, avec les autres personnages jouables, Dingodile et le professeur Cortex, honnêtement, il y a du potentiel là-derrière. Il faut creuser un petit peu, mais à mon avis, ils peuvent carrément faire un autre jeu de ce genre-là. Alors, à voir comment est-ce qu'il se vendra. Ça, c'est un petit peu le mystère, parce que la trilogie s'était bien vendue, mais est-ce que les gens ont encore aujourd'hui envie de Crash Bandicoot ? Ça reste à voir dans les prochains mois. On va voir comment ce jeu-là passe Thanksgiving, le Black Friday et Noël. C'est un peu le challenge. Il est quand même relativement bien poussé par Activision, donc je fais confiance. En tout cas, niveau com, ils ont l'air de le mettre en avant. Maintenant, c'est vrai que ça reste un petit mystère. Il s'inscrit bien dans la trilogie. C'est un bon jeu. C'est pas le meilleur jeu du monde. C'est pas le meilleur jeu de plateforme. Bien sûr, il a ses défauts. Encore une fois, il peut être assez injuste. Il est difficile. C'est pas le jeu de plateforme que vous allez donner à quelqu'un pour l'introduire au genre. C'est joli à regarder, comme tu l'as dit. Mais à mon avis, il faut être quand même un joueur confirmé de jeu de plateforme pour s'y lancer. Par contre, si vous aimez justement ce challenge-là et que la répétitivité de recommencer certaines séquences ne vous rebute pas, mais au contraire vous intéresse parce que c'est un autre challenge, ce jeu-là, il est à mon avis à mettre dans la liste des jeux qui vont vous intéresser. Et peut-être faire votre fin d'année.
Bon, donc il y a un vrai intérêt au-delà du trip nostalgique, c'est pas juste on ressort le héros et puis on vous propose une aventure
non,
comme ça juste pour capitaliser.
Même si pour le trip nostalgique, honnêtement, il joue ça à fond, je trouve que scénaristiquement parlant, en termes d'environnement également, sans faire de la redite, il y a quand même pas mal de fanservice dans ce Crash Bandicoot 4 et beaucoup plus en fait que ce à quoi je m'attendais. On a tous vu la vidéo dans le trailer où un des masques demande à Crash, mais en fait c'est la combienième fois que tu combats le docteur Néocortex, et Coucou répond trois fois et le masque rétorque 3. Il m'a semblé que c'était beaucoup plus, ce qui est évidemment un clin d'œil, un magnifique clin d'œil au fait que la série a connu des hauts et des bas après que Naughty Dog soit parti vers d'autres pâtures. En tout cas, je trouve que ils ont réussi à bien équilibrer le fan service et l'innovation. Je les ai même trouvés parfois un peu métatextuellement en train de s'excuser du fait qu'ils aient changé un petit peu la formule, mais vous inquiétez pas, le changement c'est également positif. J'ai trouvé que le changement était en fait carrément positif et que ça fonctionnait bien pour ce qu'ils ont réussi à changer sur la formule. C'est le bon équilibre entre innovation et respect de ce qu'est un jeu Crash Bandicoot.
Bon, j'ai bien compris que t'avais pas aimé du coup les épisodes avec les mutants et les titans. Mais c'est quoi ton Crash préféré dans ces quatre jeux?
Je pense que le Crash le plus équilibré, le plus intelligent, ça doit être Crash 2 qui fait beaucoup avec peu. Crash 3 rajoute pas mal de mouvements à la palette de Crash, et même si le double saut est finalement assez bienvenu, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont super fêtatoires. Ouais. Crash 2 est celui qui a le meilleur hub à mon avis, qui a une excellente musique, qui a du level design vraiment intéressant et on va dire beaucoup plus ambitieux. Sur un point qui est de créer au maximum un monde cohérent à tout point de vue. Ce que des jeux comme justement Crash 3 et Crash 4 ne font pas, eux, c'est plutôt le melting pot de, un peu à la manière de Super Mario Galaxy, d'essayer de t'en faire voir de toutes les couleurs, y compris s'il n'y a pas véritablement de cohérence d'ensemble, à part tais-toi, on est dans l'espace.
Je repense à ce que t'as dit, et c'est vrai que je trouve en plateforme surtout le mieux est vraiment l'ennemi du bien en fait. Entre le 2 et le 3, ce que t'as évoqué, le 3 qui ajoute des mécaniques un peu superflues,
et c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu le 3,
ouais,
hein, cependant
c'est pas le problème. Par exemple, Sunshine est pour moi est un bon jeu, même s'il est assez décrié par beaucoup. Mais je pense que ça la complexité de son gameplay fait que c'est inutile. Alors quand tu viens à un jeu essentiel comme peut l'être Mario Odyssey, comme on l'a déjà dit, ton jeu il est bien et t'es à la manette tout de suite. Je trouve que pour la plateforme, les meilleurs jeux sont toujours les plus élémentaires.
Et
ça pour moi c'est évident.
En allant dans ce sens-là, il faut que je parle d'un truc qu'il n'y a pas dans Crash 4, et c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas pléthore de véhicules. Certains jeux, dont Crash 3 notamment, avaient mis la moto qui était absolument immonde à contrôler, l'avion qui était pas génial non plus, et pas mal d'autres petites idées comme celle-là. Alors il y a toujours des courses de de chevauchées d'animaux, vous inquiétez pas, elles sont là, elles sont toujours aussi injustes. Il y a toujours également un petit jet ski, mais cette fois-ci on n'est pas dans un grand espace avec des bombes au milieu, on est toujours dans le couloir typique de Crash Bandicoot, et on n'a pas la moto, on n'a pas ce genre de choses, et c'est tellement bien, c'est tellement bien de pas avoir à se fader ces gameplays alternatifs. Honnêtement, le jeu, le trade-off entre justement les phases en moto, les phases en avion et les phases avec Tona, les phases avec Neocortex et les autres, honnêtement on s'en sort mieux. Je pense que c'est une bonne nouvelle.
Bon, tant mieux alors. Et pour les gens qui adorent collectionner, compléter,
oui,
comme moi je l'étais exactement, ceux qui veulent tous les trophées, toutes les reliques, comment ça se passe là du coup dans le jeu? J'imagine que c'est toujours le point d'orgue de Crash Bandicoot et que c'est toujours le truc qui rend zinzin et qui est le plus difficile.
Il y a 6 gemmes à récupérer par niveau, plus 6 gemmes par version inversée, plus encore des trucs pour les timers. Donc honnêtement, obtenir le trophée platine PlayStation, pour donner celui-là, de Crash Bandicoot 4, je pense que ça va être réservé à l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, tellement simplement maxer chaque niveau va demander une patience et un investissement conséquent. Encore une fois, et ça c'est quelque chose qui est important à dire, c'est pas parce qu'un jeu est trop difficile par certains aspects, dans ses modes les plus évolués, dans ses degrés de le finir à 100% les plus poussés, c'est pas parce qu'un jeu peut être comme ça qu'il est à déconseiller aux gens qui n'iront pas aussi loin. Céleste est très difficile sur ses phases B, ses phases C et son dernier chapitre, vous n'êtes pas obligé de les faire. Ça reste un très bon jeu au demeurant, et c'est la même chose pour Crash 4.
Très bien. Quelque chose à ajouter, votre honneur ?
Non, je vais juste réitérer que le Tona est vraiment cool, de une, et de deux, non si quand même,
non, la VF... Non mais je te crois, c'est juste que tu... Ah oui, pardon, je croyais que tu insistais sur le côté Tona.
Non, la VF, parce qu'autant la voix de Tona est bien, autant la voix de Neocortex est bien aussi, en voix française, ils ont repris d'ailleurs le même acteur qui faisait la voix dans le remake HD sur console moderne, autant... Honnêtement, les autres voix, c'est pas top, c'est pas extraordinaire, et la personnalité n'y est pas forcément. Neocortex joue vraiment le rôle du scientifique fou, très bien, hein, le gars qui fait sa voix, mais au-delà, voilà, bif-bof. Et surtout, très très bif-bof, voire même assez mauvais, la traduction des menus et la traduction du nom de certains niveaux, tu sais, c'est... La personne qui a fait le titre en anglais, tu vois exactement quel jeu de mots, quel calembour il avait en tête, et il a été traduit littéralement. Et ça fait mal.
Hein.
Et certains éléments dans le menu également qui sont mal traduits, ça n'aide pas non plus. Donc, il manque un petit degré de polish là-dessus qui est regrettable.
Très bien. Eh bien, écoute, je te propose de passer au suivi et au courrier.
Oui.
Et je vais d'ailleurs commencer par un petit commentaire qui nous a été laissé sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à faire de même, à mettre 2 petites étoiles, si possible 5, et des petits mots d'amour. Ce commentaire s'appelle Très bon podcast. Donc, déjà, merci beaucoup à Starksy. Très bon podcast, je recommande. Et est-ce que vous pourriez parler de Cuphead?
Eh bien, écoute,
alors,
Starksy,
on a fait une recherche.
Ouais, tu as 3 ans de retard, en fait, mon cher Lou.
Oh. Le pauvre. Donc effectivement, on en a parlé en octobre 2017, donc ça remonte quand même. Il n'y a pas trop d'actualité, si ce n'est le DLC qui devrait finir par sortir un jour. Il est annoncé à je sais pas combien d'années, tout comme Cuphead d'ailleurs, qui a mis beaucoup de temps à sortir. Donc le DLC qui rendra jouable du coup la petite tasse féminine, du coup, si je me souviens bien, plus des nouveaux niveaux, etc. Je sais plus exactement. Je pense qu'on en parlera à ce moment, mais il faut savoir que j'ai pas beaucoup avancé sur Cuphead depuis sa sortie. Je suis toujours coincé au monde 2. Et alors, Dieu sait que du coup, comme j'ai laissé tomber le jeu plusieurs années, je vais avoir du mal à y revenir.
Je suis au dernier monde, mais franchement,
c'est beaucoup trop dur. Et c'est vrai que là, je me dis, s'ils mettent un petit mode facile, peut-être que... Non, c'est même pas peut-être, c'est sûr que je me laisserai tenter. En fait, je crois que...
Il y en a un. Il y en a un, mais le problème, c'est qu'il te permet pas de progresser.
Oui, voilà.
Tu peux terminer les niveaux, mais tu ne récupères pas les contrats, et du coup, tu ne peux pas terminer le jeu avec.
Donc je comprends qu'on l'aime pour sa difficulté, je le conçois tout à fait. Après, c'est vrai que c'est bien quand c'est accessible pour tout le monde, surtout que le jeu, tu peux vouloir le faire pour autre chose que son gameplay, parce que le jeu est graphiquement extrêmement intéressant, comme tu peux avoir envie de faire Assassin's Creed pour son mode histoire, où il retirait les ennemis et tu pouvais te balader, je crois, un truc comme ça, tu te souviens, Assassin's Creed Odyssey, je crois, qui avait fait ça.
Oui, un mode exploration, un mode musée, voilà. Je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà.
Mais si tu veux le jouer autrement, tu vois. Donc là, ce serait bien dans Cuphead justement de permettre. Enfin voilà, je digresse, mais Grèce, et on en reparlera à la fois prochaine. Petit message sur Twitter de Mathieu Gou.
Mais oui.
Salut, bien évidemment. Oui. Alors, il a une question sur Crash Bandicoot 4. Sur une échelle de 1 à waouh, où se situe Crash 4?
Bah, c'est amusant parce qu'en fait, un peu avant qu'on enregistre cette émission, j'ai vu sortir le test sur GK et je crois que la note qui a été donnée correspond à la philosophie de la juste note. Ils lui ont mis 7 sur 10. Et c'est à peu près la note que je lui aurais mis aussi. C'est un jeu que j'aime bien, mais c'est aussi un jeu qui a des petits défauts par-ci par-là, notamment d'un point de vue technique. Et je trouve que c'est correct de le placer comme ça. Ça prouve qu'il y a encore de la marge pour faire le jeu parfait. Donc oui, voilà, je le placerai. Alors je ne sais pas comment ça se quantifie en voix, évidemment, mais je suis assez d'accord avec l'idée de lui donner un 7 sur 10. C'est quelque chose qui me semble assez cohérent. Voilà.
Très bien, et bien la cartouche c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à nous écrire avec vos questions, vos réactions, vos idées de jeux, jeux nouveaux, jeux rétro, des tops, tout ça, par email, lacartouche@blueprint.pm, un blue avec un E au bout, n'oubliez pas le E, et sur Twitter, @lacartouchebp. Toujours sur Twitter, vous pouvez nous suivre, @inkshd si
oui,
j'arrive à le dire,
vas-y.
Pour Yann et @alexleserveur pour moi-même. À très bientôt, ciao
ciao ciao. Comment t'as réagi d'ailleurs à ce morceau-là quand tu l'as entendu? Parce que là aussi tu l'avais trouvé intéressant.
Ben, il est pas mal, je trouve très très beau. Déjà, je trouve les deux morceaux, j'en ai écouté que deux, très très bien. Et c'est rare, c'est pas rare que je sois attiré par une musique de jeu vidéo, mais c'est rare qu'elle m'évoque, qu'elle soit aussi évocatrice. Ouais, j'ai pas d'autres mots pour moi, et je trouve qu'elles appellent vraiment. Il y a une espèce d'essence qu'on retrouve justement dans les musiques de la SNES, je trouve. Je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose avec les musiques de la SNES qui pour moi ont je sais pas si c'est les consonances, si c'est il y a quelque chose, je trouve, de magique vraiment avec les musiques de cette console, et je trouve que il y a de ça dans cette façon de, alors je connais pas assez techniquement la musique pour expliquer pourquoi je ressens ça, mais ça m'évoque ça.
Ouais.
Vraiment, par contre, celle que t'as mis au tout début, c'est vraiment Donkey Kong Country à fond, et je suis ultra fan.
Je vais la remettre en fond un petit peu.
Ah non, mais c'est franchement, je te jure, je vois littéralement la map. Pour moi, c'est la map de Donkey Kong Country, le premier.
Ouais, ça marche bien.
Ah, t'es complètement dans l'univers.
Ça marche bien. Est-ce que tu me permets de prendre un petit
Vas-y.
Peu le lead
Prends
sur
la main.
Cet after show assez rapidement, parce qu'il y a deux, trois trucs qu'il faut qu'on évoque un peu en tête. Le premier truc qu'il faut qu'on évoque un petit peu en tête, c'est une question que j'ai pour vous, les auditrices, les auditeurs. Est-ce que ce rythme hebdomadaire de la cartouche, qui est plutôt de fait qu'une décision raisonnée, hein, mais simplement il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez vu ces dernières semaines, à évoquer, et là encore pour les prochaines, là on est vraiment parti en mode hebdomadaire jusqu'à la fin de l'année 2020.
Alors qu'on s'était dit on repasse à un rythme 15 os pour être plus tranquille, et finalement.
Et même un peu moins. À un moment on s'était dit ouais, un peu moins de 15 os, on en fait un épisode de temps en temps, etc. Total, on fait un épisode par semaine. Moi, je suis juste curieux de savoir si ça vous plaît et si ça vous va, tout simplement. Je suis curieux de savoir ça, donc n'hésitez pas à écrire un message simplement à la cartouche BP sur Twitter ou l'adresse email que Lou a donnée tout à l'heure pour nous faire un petit peu ce feedback. Du feedback également, c'est du courrier par rapport à la fois dernière, enfin plutôt par rapport à l'épisode sur Mario et l'épisode, je crois aussi sur Spelunky où on a parlé d'Harry Potter. Donc d'abord par rapport à l'épisode sur Mario 3D All-Stars, JBC demande à ce propos, vous conseilleriez quoi comme platformer 3D sans plombier moustachu dedans ? Est-ce que t'as des noms toi, Lou ?
Banjo-Kazooie ?
Banjo-Kazooie, c'est une bonne... Correct pour...
Correct, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, ils sont... Ah, j'ai déjà raconté cette anecdote en plus, il y a quelque chose avec Banjo-Tooie et Laurence Boccolini, je ne sais pas pourquoi, mais dans mes souvenirs, il faudrait voir la première
diffusion.
Je crois surtout que c'est le même été. La sortie de Banjo-Tooie et la première diffusion de Maillon Faible en France. Écoute, je t'invite parce que dans mes souvenirs, c'est coincé avec mon ami Pierre que j'embrasse du coup, ami de primaire, mais je pense que c'était au collège. Oui, c'était au collège quand Banjo-Tooie est sorti. Mmh. Et je me souviens d'un été vraiment où on jouait à Banjo-Tooie ensemble. On adorait jouer même à des jeux solo ensemble. On se passait la manette, tout ça. Ouais. Et on regardait le Maillon Faible en même temps. Écoute, donc du coup, et c'est marrant parce qu'elle est associée. Elle est associée au monde 2 dans ma mémoire, qui est le monde de la mine, je crois, avec cette espèce de monde de joyaux mauves. Et écoute, ces joyaux mauves me font penser à Laurence Boccolini irrémédiablement. C'est extrêmement bizarre dans ma mémoire. Non, mais comme quoi, le cerveau humain, depuis des années, je suis coincé avec ça, quoi. Et je sais que le moment où je vais refaire le jeu pour le faire en let's play, tout ça, je serai obligé d'évoquer Laurence Boccolini.
Je suis énervé. Que je puisse pas donner comme titre de cet épisode, ces joyeux mauves me font penser à Laurence Boccolini.
Non mais c'est du camoulox, ça, tu vois. C'est une phrase qui n'a jamais été prononcée, je pense, dans de tout l'univers, et je serai le seul à prononcer cette phrase, tu vois. C'est formidable.
Alors tu vas rire, mais tu n'es pas loin, parce que le Maillon Faible a été diffusé sur TF1 à partir du 9 juillet 2001, d'après Wikipédia France, et Banjo-Tooie est sorti en Europe le 12 avril 2001. Donc moins de 3 mois d'écart.
Ouais, ouais, bah, tu vois, je pense qu'on l'a acheté un petit peu, un peu en décalé, mais tu vois, j'avais la notion de l'été déjà. Et oui, parce qu'effectivement, je m'achetais pas mes jeux encore à cette époque-là. Hein. C'était ma mère qui me les payait, donc peut-être qu'elle me l'a acheté plus tard finalement. Et que du coup, vraiment, enfin voilà, cet été, ça reste indissociable dans ma mémoire. Donc c'est marrant que tu parles de Laurence Boccolini qui arrive là, du coup, avec Banjo-Tooie.
Donc pour revenir à la question de JBC sur les plateformes 3D sans Mario, tes réponses sont recevables, même si j'ai des choses à dire à propos de Banjo-Tooie, mais on en parlera peut-être si on fait un épisode rétro dessus.
Très ancien, en même temps, c'est très ancien. En récent, Yooka-Laylee était sympa, mais je peux pas non plus. Enfin, tu peux pas comparer Yooka-Laylee et Mario Odyssey, tu vois. C'est clairement trop difficile.
Il y a une moitié de Yooka-Laylee, oui. Il y a l'autre moitié de Yooka-Laylee, non. Pour le premier du nom, parce que c'est le seul platformer 3D de la licence. Pour moi, je dirais Hat in Time, qui fonctionne pas mal, qui a des petits défauts au côté de la caméra, mais honnêtement, globalement, c'est un bon jeu de plateforme 3D. Et j'aurais tendance à dire la trilogie originale remaster de Crash Bandicoot, qui est sympa, qui là aussi a ses petits défauts, alors plutôt côté difficulté et côté physique un peu injuste dans certains cas, mais globalement, c'est des bons jeux de plateforme 3D que je recommande aussi.
Non, mais si tu vas me dire challenge. Que... Tu vas me dire que j'y reviens, non pas Laurence Boccolini, je la laisse tranquille.
Et Rayman 2 et Rayman 3 aussi d'ailleurs, dans son genre évidemment, oui.
À ce commentaire qui nous disait qu'on parle trop de plateformeurs, tout ça, désolé c'était déjà il y a 10 épisodes mais j'y reviens encore. Mais il y a une véritable pénurie du genre, enfin je veux dire.
Alors c'est le paradoxe parce que je trouve justement qu'on est dans la saison des jeux de plateforme avec ce jeu là dont on a parlé, Crash 4, avec Spelunky 2, avec le 3D All-Stars, avec mon dieu, enfin sur PS5, deux jeux du launch sur genre 5 ou 6, c'est des plateformeurs, c'est-à-dire Sackboy et Astro's Playroom, c'est quand même beaucoup.
Ouais, tu compares à l'époque de la 16 bits, c'est incomparable, quoi. À l'époque, c'était le genre roi. On te faisait un platformer. Voilà, c'était le genre qu'il fallait.
Justement, c'est incomparable. C'est-à-dire que c'est une époque où, forcément, par les limitations techniques, c'était beaucoup plus facile de faire un jeu de plateforme.
Tout à fait. Non, mais du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de platformers, donc je trouve qu'on en parle quand même beaucoup moins. Et voilà.
C'est facile de faire un jeu de plateforme, mais c'est beaucoup plus difficile de faire un bon jeu de plateforme. Et c'est ça, à mon avis, le point d'achoppement encore plus sur un jeu de plateforme 3D, parce qu'il faut policher la physique et le level design à un point, je pense, quasi obsessionnel. Moi, je suis admiratif des studios qui arrivent à faire un bon jeu de plateforme 3D parce qu'honnêtement, ça n'a pas l'air d'être une chose facile à faire, hein, y compris mis simplement à égalité avec d'autres genres. Donc, je le place là comme ça. Ça demande vraiment une bonne maîtrise des codes et surtout, enfin, encore une fois, quand on pense aux jeux de plateforme, on pense au level design. Il y a plein d'idées de level design qui ont été faites, que ce soit sur les jeux de plateforme 2D ou 3D. Pour aujourd'hui sortir une idée novatrice de niveau de jeu de plateforme, faut se lever tôt. Et à mon avis, ça fait aussi partie du tour de force. Alors, de jeux qui sont bons, comme Crash 4.
Pas forcément d'accord, parce que moi, en deux idées,
ouais.
Des Joyeux Mauves et Laurence Boccoli. Tac, jeu de plateforme original. Voilà.
Oh mon dieu, les joyaux de Boco.
Je l'adore en plus, mais sur Twitter, enfin, adorable.
Mais oui, elle est adorable.
Je la trouve génialissime. Je rêverais de la rencontrer en vrai.
Viens dans la cartouche, Laurence, ce sera un vrai plaisir. Murray nous écrit. Il nous dit, j'ai écouté le dernier épisode de la cartouche et pour information, il existe un jeu mobile officiel Harry Potter depuis 2-3 ans maintenant qui se déroule entre la première chute de Voldemort et l'arrivée d'Harry à Poudlard. On y incarne un élève qui a sa propre histoire en fil rouge tout au long de son histoire à Poudlard et on retrouve les profs ainsi que certains membres de la famille Weasley et d'autres élèves plus âgés que Harry quand il arrive à Poudlard. Bon, c'est pas le jeu du siècle non plus, mais le jeu est assez ouvert sur ses persos, bien plus que Rowling. Ah, et j'oublie, ça s'appelle Harry Potter Hogwarts Mystery ou Mystère à Poudlard.
Tout à fait. Jeu que j'ai téléchargé et que j'ai jamais lancé. Il était très attendu.
Pour l'avoir lancé, c'est un piège à timer. C'est-à-dire que tu fais une action et on te fait d'accord. La prochaine action, tu peux la faire dans 15h14 secondes. Et du coup, non. Je ne vis pas pour ce genre de choses. Ce n'est pas le genre d'expérience que je veux avoir.
Je pense qu'il est plus intéressant que le jeu de Niantic, hein, Harry Potter.
Oui, c'est difficile de faire moins intéressant.
Je ne sais même pas s'il existe encore d'ailleurs, parce qu'il était vraiment tellement décevant. Mais oui, celui-là, il a eu son succès, Hogwarts Mystery. Je ne sais pas s'il est. Si, je pense qu'il est toujours. Et en fait, le principe, c'est que tu suivais d'année en année, petit à petit. Je sais pas si ça avance encore maintenant. Si c'est mis à jour.
Je ne sais pas non plus. C'est vrai qu'il nous en parle.
Je ne suis plus du tout l'actualité. De ce jeu, mais bon, ça vend quand même moins de rêves que le jeu qu'ils ont présenté du coup lors du teasing de la présentation de la PS5.
Simplement, ça m'intéresse pas de faire face à soit des timers, soit des microtransactions. Donc, pour moi, c'est un niet assez automatique en fait.
De manière générale, enfin, je sais pas, là on s'en fout parce qu'on est dans l'after, du coup, on peut en parler plus librement.
Vas-y.
Mais sur mobile, je ne peux pas jouer sur mobile. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal.
Le jeu auquel je joue le plus sur mobile en ce moment, c'est les petits mots croisés du New York Times.
Ah, bah oui, je te comprends, ça j'adorerais.
Il y a une application dédiée, c'est rigolo, c'est gratuit d'ailleurs, donc pour si tu fais seulement celui du jour, donc ça me va très bien.
Moi, c'est Pokémon Café Mix, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a des événements tous les 15 jours, et du coup, je veux pas louper le Pokémon disponible, et du coup, je reviens tous les 15 jours automatiquement pour choper le Pokémon. Mais sinon, c'est un jeu que j'aurais mis de côté, c'est juste que là, je me suis lancé dans le truc, et comme j'ai commencé, il faut que je le finisse, tu vois.
Ça compte comme un jeu Pokémon Home, non?
Ça fait très longtemps que je l'ai pas lancé aussi, tu vois. Enfin, mais non, pour moi, le smartphone, c'est vraiment pas un terminal de jeu.
En fait, sur terminal mobile, donc je vais aussi inclure les tablettes plus largement. Ce que j'ai comme jeu, c'est donc là, j'ai dit tout à l'heure, hein, le truc du New York Times. J'aime toujours beaucoup le Altos Adventure et Altos Odyssey, qui sont des runners, mais des runners que tu payes une fois et tout est dedans. Donc c'est beaucoup plus honnête et c'est très bien fait. Et puis j'ai toujours et ça tombe toujours, c'est incroyable, Poker Night at the Inventory 2, donc qui est le jeu de poker solo de Telltale Games avec les personnages de genre avec GLaDOS, avec Max de Sam & Max, etc. c'est le Smash Bros du jeu de poker, et c'est rigolo et j'en fais une partie de temps en temps, voilà. C'est génial, hein.
Bah écoute, tant que tu t'éclates.
Exactement. Donc non, voilà, ça c'était pour le courrier. Qu'est-ce que j'avais d'autre noté de mon côté? Non, bah écoute, parlons un petit peu de Super Mario 35.
Bah oui, écoute.
Il est sorti.
Parlons de la drogue.
Il est bien. Bah, hein.
Ça, je l'attendais, mais tellement quand ils l'ont montré. Pour moi, c'était le point d'orgue, de toute façon, de la présentation. Autant, voilà, pour la compilation, bon, je savais ce qu'il y avait dedans, j'ai fait les jeux, j'étais très content de les refaire. Mais quand ils ont présenté Super Mario 35, bon, déjà, on va évoquer tout de suite le truc qui fâche. Pourquoi, à la rigueur, tu mets plus la compilation en vente, mais pourquoi tu débrancherais ce jeu génialissime? Je ne veux pas.
D'autant que tu peux vendre des DLC avec, quoi.
Mais moi, je paye pour y jouer à ce jeu. Uh-huh. Moi, il y a aucun.
Ne t'inquiète pas, tu payes pour l'abonnement ou tu payes déjà pour y jouer.
Oui, c'est vrai. Mais non, mais t'as aussi tout le reste. Je trouve que franchement, ce qu'on te propose, le catalogue pour le prix, ça va. Merci.
Alors,
mais
pour mettre
moi,
un peu.
Je, honnêtement, je paye 60 euros pour jouer à ça. Il n'y a pas de problème.
Pour mettre un peu en contexte, donc c'est Super Mario Bros, les 8 mondes de 4 niveaux chacun, mais 35 personnes y jouent simultanément, et à la manière de Tetris 99 ou des modes compétitifs de Tetris ou de Puyo Puyo, quand vous battez un ennemi, quand vous réussissez quelque chose et que vous réussissez à oxyre un ennemi, bah en fait ça l'envoie chez vos adversaires. Donc assez vite, ça va noyer l'écran des autres, de Goomba, de Koopa, de Frère Marteau, de Bowser, etc. etc.
Alors, paradoxalement, ce que je trouve génialissime, parce que quand tu le dis, t'as du mal à t'en rendre compte, mais je trouve que c'est beaucoup plus stratégique que Tetris 99. Ta stratégie dans Tetris, bon, c'est faire des lignes, mais là, déjà, c'est pas du speedrun, t'as pas besoin de rusher pour arriver dernier, arriver premier plutôt, ça n'a aucun intérêt.
Maintenant, il faut survivre.
Ton objectif, c'est survivre déjà, et c'est choper du temps, parce que t'as le temps qui s'écoule tout le temps, et pour agrandir, pour recharger la jauge de temps, c'est très très simple, tu abats des ennemis de manière différente. Hein. Si tu sautes dessus, ça fait plus de points que si tu les crames avec une boule de feu. Et si tu sautes en combo, hein, si tu rebondis d'ennemi en ennemi, tu gagnes une seconde supplémentaire à chaque fois.
Yes.
Autre subtilité après. Mais du coup, ça veut dire que tu dois vraiment bien jauger en fait. Est-ce que je trace ici? Est-ce que je prends le temps de tuer tout le monde? Comment je les tue? Enfin, c'est très très bien foutu. Alors, en sachant que les ennemis que tu bats en plus ils sont envoyés chez tes adversaires, et là tu peux choisir comme dans Tetris 99 si tu vises, bah déjà tu peux viser manuellement ou alors en aléatoire, en riposte, c'est-à-dire ceux qui te visent directement, ceux qui ont peu de temps pour les achever, donc ça c'est très 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 vicieux, ou ceux qui ont beaucoup de pièces, exactement, pour les pénaliser, parce que la pièce te permet d'acheter, enfin de faire tourner une roulette et d'avoir potentiellement un bonus, enfin c'est je le trouve génial.
Ce qui est vraiment cool d'ailleurs dans ce jeu-là, c'est que tu peux enfin inverser le stick et la croix directionnelle en fonction de ce qui contrôle Mario, de ce qui contrôle ce que tu
vises. Non, j'ai
pas fait gaffe. T'as un menu pour ça et tu peux également inverser. Bon, ça c'est typique avec les jeux Mario. A et B pour sauter, enfin A et B pour sauter et courir, ou B et Y pour sauter et courir. Donc là aussi, c'est chouette, dépendant de comment tu préfères jouer à un jeu de plateforme comme ça entre courir et sauter. Tu as le choix de tes boutons, ce qui est quand même assez agréable. C'est vrai. Mais je tiens à relever un truc que Greg, qui est venu nous visiter sur les deux précédents épisodes, a évoqué auprès de moi quand on a discuté un petit peu du jeu. Il a tout à fait raison. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est son observation. C'est que le jeu a tendance à mal gérer les cas où t'as encore 3 ou 4 personnes qui sont en tête. Parce qu'en fait, globalement, si tu es bon à Super Mario Bros., et si tu sais comment fonctionne la mécanique du jeu pour essayer de maximiser justement le temps qui te reste et bien survivre, bah en fait, tu peux vraiment jouer longtemps. Tu peux jouer un quart d'heure, 20 minutes.
Et, ah, mais facile.
Et ça, certes, dans certains cas, ça crée de la tension, mais dans d'autres cas, ça crée peut-être parfois un petit peu de monotonie. C'est ce qu'il disait, et je trouve que c'est vrai aussi, pas dans toutes les parties, mais dans certaines. Et un autre problème qu'a le jeu, et c'est d'autant plus surprenant quand on sait comment il a été développé, j'y viendrai dans un instant, mais un autre problème qu'a le jeu, c'est que normalement, tu peux sélectionner le niveau dans lequel tout le monde commence.
Ah oui, mais ça, je comprends pas.
Et c'est un choix aléatoire.
Pas celui où tu commences. Parce que tu commences toujours dans le 1-1.
Non. C'est ça. Alors justement, c'est qu'en fait, si, c'est carrément celui dans lequel tu commences que tu sélectionnes sur l'écran. Le problème, c'est que comme tout le monde appuie sur 1 sur cet écran-là pour passer à la suite, la majorité des gens sélectionnent 1-1, et donc la partie, si, c'est le problème, c'est que c'est mal équilibré et c'est mal expliqué aux joueurs. Le gros problème de Super Mario Bros 35, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a appris, nous, en regardant le trailer, en regardant la conférence de Nintendo, mais globalement, qui ne sont pas expliquées dans le jeu.
Ah,
le fonctionnement du jeu n'est pas expliqué dans le jeu.
Sûr et certain que tu commençais obligatoirement par le 1-1.
Non, c'est le choix aléatoire. C'est comme dans Mario Kart 8 quand tu joues en ligne. C'est-à-dire que tu as une roulette qui va parmi les votes de chacun sélectionner le truc. En fait, le jeu, contrairement à Mario Kart 8, ne fait pas l'effort de te montrer cette roulette.
T'es déjà tombé sur un autre niveau que le 1-1 en commençant ?
Très rarement, oui.
Ah d'accord, parce que moi c'est juste, enfin j'ai fait je sais pas combien de parties, je suis déjà niveau 35 je crois, mais c'est impossible de tomber sur autre chose que le 1. Pour
quand
moi, je
dis rarement, c'est que j'en ai probablement eu une qui a genre commencé sur le 1-3 complètement au hasard. Mais voilà, c'est
le 1-3, mon dieu, je le déteste.
Voilà. Oh là là là. Non, il m'énerve celui-là.
Et ça c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage aussi parce qu'on a appris de la part du président de Arika, qui est le studio qui a fait ce jeu-là et qui a également fait Tetris 99, qu'en termes de développement, Super Mario Bros. 35 prédate Tetris 99.
Ah ouais ?
Et de voir qu'ils se sont assis dessus pendant aussi longtemps et que le quelque chose d'aussi élémentaire que clairement dire aux joueurs que maintenant c'est le moment où tu votes pour le niveau sur lequel tu veux commencer, que ça n'est passé à l'idée de personne de faire une interface un peu plus claire et peut-être un système d'arbitrage un peu meilleur pour que ce soit pas littéralement 1-1 à chaque fois, c'est pas encore ça. C'est pas encore quelque chose qui c'est clairement pas quelque chose qui leur est monté en tête pendant qu'ils créaient le jeu, et ça viendra peut-être avec un patch ensuite, mais pour l'heure,
ouais, enfin patcher un jeu qui va disparaître dans 6 mois, c'est enfin
même
justement, pas dans
5 mois. Et même si Nintendo annonce ça et même si c'est une mauvaise idée, je comprends pas pourquoi ils retireraient une raison de plus de s'abonner au Nintendo Switch Online.
Ouais, bien sûr. Non mais je suis pas fan des joueurs qui râlent tout ça, mais je compte dire hey, Nintendo please,
tu sais, c'est comme
let us play.
Récemment, tu sais le petit jeu de qui était sorti
Take
pendant le confinement,
money.
Le jeu gratuit où tu fais des trucs de corde à sauter.
Ah non, je me souviens pas.
Bah il était censé rester temporairement sur l'eShop, il restera de manière permanente après que beaucoup de gens l'aient téléchargé en mode oh, en fait vous êtes beaucoup à jouer à ce truc là.
Attends Mario, mais c'est pas possible. Enfin, je te dis. Et en plus, j'aimerais tellement que le concept peut être décliné avec les autres Mario. Il y a pas de problème. Moi, je paye pour une cartouche qui te regroupe Mario 1, 2, 3 World s'il faut, tout ça, les 2D.
S'il
pour.
Faut.
Mais vraiment, il y a aucun problème. Enfin, même si Mario Bros s'y prête davantage, puisque l'écran, enfin, il joue sur aucune verticalité. Hein, c'est que de l'horizontalité. C'est trop bien, c'est juste trop bien. Enfin,
oui.
Petite astuce d'ailleurs, si ça intéresse les gens,
les auditrices.
Surtout pensez à récupérer les vies. Il y a des vies cachées dans pas mal de niveaux, notamment dans le niveau 1-1. Il y a une vie fastoche juste avant le premier trou. Ça rapporte 20 pièces, ça vous permet de lancer une roulette.
Il y a une étoile qui est cachée après, juste avant le troisième champignon, ce qui peut être assez utile.
Ouais, c'est une étoile, c'est deux blocs et l'étoile est dans le bloc de droite.
Yes.
Et ça vous permet y a plein d'ennemis à la suite et si on vous en balance plein, enfin c'est banco.
C'est
et gardez
bon.
Vos pièces, gardez vos pièces surtout. Essayez d'être en Mario feu et si vraiment vous êtes en danger, utilisez vos pièces.
Ouais.
Mais gardez-les pour la fin parce qu'à la fin vous allez être surchargé d'ennemis. Vous allez vous les renvoyer mutuellement avec tout le monde et c'est là où on a vraiment besoin de pièces. Faut pas les dépenser tout de suite, faut vraiment les économiser. Mais c'est jouissif, hein, c'est jouissif.
Ah, c'est excellent.
T'as fait des top 1 ?
J'en ai peut-être fait un. Je me souviens plus. Je sais plus si j'ai fait un top 2 ou un. Non, j'ai fait un top 1. J'ai fait un top 1 sur une trentaine de parties. J'ai fait un top 1.
Alors moi, je me félicite d'avoir joué 2 heures et d'avoir fait 3 top 1 la première heure.
Oh, wow.
Et la deuxième heure, j'ai juste réussi à faire un top 2 et je suis mort sur une erreur con. Enfin, je meurs souvent sur des erreurs con. C'est un peu dommage. C'est souvent ce qui arrive de toute façon. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'est plus souvent le vide qui me tue moi personnellement que les ennemis.
Oui, c'est pareil.
C'est le plus grand danger.
Un saut idiot.
Voilà.
Bien sûr.
Et puis
les
la physique particulière. Les ressorts de Mario Bros sont imblairable,
oui.
C'est pas possible.
Oui.
Et la physique particulière, tu sais que cette espèce de boost qui te prend d'un coup vraiment, hein, c'est tu cours à vitesse normale.
Carrément.
Et d'un coup pouf et du coup ton saut, tu avec l'inertie tu peux vraiment glisser d'une plateforme quand t'atterris. Mm-hmm. Enfin c'est un peu frustrant. Mais non, mais c'est un énorme kiff.
Donc non, franchement jouez-y si vous en avez l'occasion.
Ah, oui,
c'est un chouette jeu. Et il est dans votre abonnement Nintendo Switch Online si vous y payez. Donc allez-y. Sans transition. Lou, et assez rapidement, il y a deux choses que je voulais encore évoquer aujourd'hui. Le premier, c'est un sondage interne chez Ubisoft, visiblement chez tous les studios. C'est sorti le 2 octobre, Gamma Sutra le relaye dans un article, et c'est ce chiffre qui m'a assez frappé. Donc un sondage interne organisé par Ubisoft qui montre que 20% des employés d'Ubisoft ne se sentent pas respectés ou en sécurité au travail.
C'est vrai, c'est énorme.
1 sur 5.
Et surtout, ça contrebalance un petit peu le damage control. Je ne citais personne, hein, mais ceux qui connaissent ont eu le savent de quoi je parle. Il y a eu une personne qui a été, c'est pas accusé, c'est enfin pointé du doigt en tout cas sur une mauvaise gestion d'un studio interne à Ubi.
Ah oui.
Qui a voulu se défendre sur Twitter de manière assez maladroite. Enfin. La défense de toute façon d'Ubisoft sur Twitter est de manière assez générale, assez maladroite et surtout quand on évoque des problèmes de la sorte, qu'ils soient justifiés ou non, je veux dire, je mets même pas, à titre personnel, je mets pas en doute les paroles qui ont été prononcées, mais que l'on sache que ce soit vrai ou pas, en interne, qu'il y ait manigance ou je sais pas quoi, n'importe quoi qu'on imagine, juste tu ne peux pas te permettre d'avoir certaines phrases, certaines façons de considérer. Tu considères cette parole et tu n'attaques pas gratuitement quand tu représentes ton entreprise, tu n'attaques pas les personnes qui parlent, tu laisses les personnes parler en fait. Voilà, et tu laisses l'entreprise gérer. Enfin, ça me semble un minimum. Et donc, enfin, pour revenir du coup à cette personne qui essaie de se défendre, regardez, moi les gens disent ça, les gens disent ceci, les gens disent cela. Moi, quand je leur demande, alors quand t'es chef et que tu poses la question, désolé, il y a une forme de pression. Il y a, enfin, tu peux pas te baser sur ce que tu peux.
Tu peux pas te dissocier de ta propre autorité, tout simplement.
Voilà, c'est comme si tu dis, ah bah moi, tout le monde dit que je suis très humble. Non, ça marche pas comme ça en fait. Tu ne parles pas pour les autres en fait finalement, et tu laisses juste faire les gens quoi. Et tu laisses l'enquête se dérouler. Alors oui, ça passe dans les médias effectivement, grande entreprise, grande affaire. Hein, c'est pas un problème isolé. Hein, toutes les entreprises ont des problématiques du genre. Pour autant, il n'y a pas des papiers sur toutes les entreprises. Sinon, effectivement, tu n'aurais plus que ça dans les médias. Mais voilà, enfin, ça prouve bien que, du coup, ce sondage pointe bien du doigt qu'il y a un problème systémique et qu'il faut le prendre de façon sérieuse. Et ça a été démontré que ça n'a pas été pris au sérieux assez rapidement par Ubisoft.
Non.
Et voilà, juste, franchement, si vous travaillez chez Ubisoft, déjà, enfin, si vous êtes victime, courage à vous, de manière la plus prosaïque possible, on pense déjà à vous. Et ensuite, si vous pensez que ce n'est pas le cas chez Ubisoft, ceci, cela, honnêtement, ne vous exprimez pas. Ne vous exprimez pas publiquement ou essayez de le faire de manière sans avoir à réduire la parole des gens qui sont victimes.
Ou prenez soin de vos collègues parce que ça signifie, si globalement, sur 5 personnes que vous croisez, potentiellement l'une d'entre elles est concernée. Donc c'est un signal qui devrait encourager simplement chaque personne qui travaille là-bas à prendre soin des autres autour d'elle. Quoi. Enfin,
ça me fait penser, tu sais, aux femmes qui se plaignent d'être harcelées dans la rue, les remarques, etc. Et les mecs, oh bah non, c'est pas vrai, moi je le fais pas, du coup, ça existe pas. Enfin, mais juste 2 secondes, mec, s'il te plaît, voilà. Là, c'est à peu près la même chose. Ah bah non, il n'y a pas de problème de harcèlement parce que ceci, cela, les gens disent ceci, cela. Alors, en fait, vous n'êtes pas partout, dans toute l'entreprise, à tous les endroits. Donc, laissez les gens s'exprimer et ne diminuez pas leur parole, finalement. Donc, voilà.
Double sans transition. Lou, est-ce qu'on peut prendre, même si ça fait 1h05, est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour parler de Minecraft dans Smash Bros?
On prend plus que 30 secondes. Non, mais évidemment. Écoute, j'étais à la fois très content et pas surpris parce que rumeur depuis longtemps.
Et parce que c'est une des plus grosses licences du jeu vidéo pour un jeu qui est censé réunir les plus grosses licences du jeu vidéo.
Mais je pense qu'on a déjà parlé tous les deux, que ça allait être possible un jour ou en tout cas.
Bungie a ouvert la porte à ça.
On l'a déjà évoqué, on l'a déjà dit, le rapprochement avec Microsoft, tout ça. Tout le monde a évoqué. Enfin, j'ai parlé avec Kassim.
J'ai d'ailleurs adoré Sakurai qui fait Nintendo va être les seuls à faire une figurine Banjo-Kazooie en 2020. C'était très drôle.
Ah non, mais faites revenir Banjo, faites un vrai jeu Banjo. Mais non, voilà. Donc, très très content parce que déjà c'est un jeu tellement emblématique des années 2000-2010, peut-être pas 2000, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti Minecraft, si il y a bien 2006-2007 non
Minecraft,
Minecraft
non
Google.
C'est 2011-2012.
Ah ouais, c'est... Oh bah écoute, pourquoi pas. Mais c'est un jeu tellement tellement emblématique, plus 2011 effectivement, début du projet 2009. C'est un jeu plus emblématique. T'as vu comme j'essaie de me rattraper quand même.
Oui, le vieux bac à sable qui tournait sur une machine de notch, effectivement, date de 2009. Mais bon,
je t'ai entendu rire, c'est pour ça. Les dates, c'est problématique. Mais tu vois, par exemple, Sonic dans ma tête, c'est les années 80. Alors, c'est 90.
Ah mais... non.
Ouais, je sais, mais c'est t'as des choses comme ça, tu vois, c'est un peu particulier. Donc très content parce que c'est hyper emblématique et je pense que ça le sera plus que Fortnite. Pourtant, Dieu sait que Fortnite est quelque chose actuellement. Mais je pense que dans 10 ans, il restera forcément quelque chose de Minecraft. Dans 10 ans, Fortnite, je suis moins sûr. Je ne suis pas... j'affirme rien. Je dis juste qu'à titre personnel, je suis un peu moins sûr. Minecraft, enfin voilà, ça accompagne
c'est un
depuis
pari,
8 ans.
C'est un pari plus raisonné à faire sur Minecraft qu'à faire sur Fortnite, mais à mon avis, les deux peuvent s'argumenter. Moi, ce que je trouve vraiment frappant, c'est que ils y sont encore arrivés. L'équipe de développement est encore arrivée à faire quelque chose de cohérent avec un personnage qui n'a rien à y faire. C'est génial.
Cohérent et tellement en accord avec Minecraft à plein de titres. Enfin, déjà, bon, très intelligent d'avoir fait un monde qui évolue en fonction des saisons, même si ça rappelle un peu Animal Crossing, mais il y a le côté qui rappelle un peu les biomes finalement de Minecraft, donc ça c'est très sympa. Le côté des briques évidemment destructibles, donc ça ajoute quelque chose de très Minecraft, c'était indispensable évidemment. Et puis ces petits gimmicks où juste quand tu vois, enfin le truc que je trouve très très drôle, quand tu vois le Steve, Alex le zombie ou l'Enderman qui a des drôles de proportions mais bon soit de passant, qui s'endort, qui sort son lit pour dormir en fait. Enfin, tu vois ce petit clin d'œil finalement au gameplay. Enfin ça montre à quel point ils considèrent vraiment la licence originale et c'est pas du on te fait venir le personnage, tu vois, c'est pas du Sega and All Stars Racing par exemple, tu vois, où on te fait venir tel perso, ou c'est juste un casting finalement, même Mario Kart finalement, tu vois, Mario Kart on te fait venir Link, bon on te met un niveau Zelda, à la rigueur on te remplace les pièces par les rubis, c'était pas mal, on te met un véhicule qui rappelle vaguement le cheval ceci cela, mais voilà, il y avait pas de mécanique à la Zelda. Là, ce qui est incroyable dans Smash Bros, c'est que avec ces nouveaux jeux, ils te rajoutent des mécaniques qui viennent justement de ces gameplays. Et non, mais hyper content, hyper content. Je sais pas ce que t'attends toi encore comme autre personnage par la suite.
Non, je vais juste placer que j'ai vraiment hâte de jouer avec la dynamite, avec la TNT. ça a l'air génial de pouvoir passer sa petite plaque et de pouvoir exploser à un autre bord du terrain. Enfin, il y a des trucs très fun qui ont l'air faisables avec Minecraft Steve. Donc j'en ai vraiment envie. Quel autre personnage? Bah, il nous en reste 4, sauf erreur, sur le pass.
4 ou 3?
Génial. Bah, il y en a un de plus que la dernière fois, donc je crois que c'est 4.
Ah ouais.
J'ai pas de bêtises. Okay. C'est 6 au lieu de 5.
Tant mieux, hein. Tant mieux.
Et, je sais pas trop. Moi, j'aimerais bien revoir un petit peu de First Party. J'aimerais bien revoir un petit peu quand même de personnages Nintendo, que ce soit dans les licences Zelda ou Mario, qui maintenant, au prorata du roster de l'offre de personnages de Smash Ultimate, commence à être un peu, hein, au final. Donc, je me demande un petit peu. J'ai hâte de voir ça. J'ai pas véritablement de prédiction. J'aimerais bien Waluigi, j'aimerais bien un dégus de Rhythm Paradise.
Ouais.
Peut-être un dégus de WarioWare.
Mais est-ce que ce serait pas Waluigi? Exemple compliqué parce qu'il est tellement demandé. Est-ce que ce serait pas un petit peu décevant finalement?
Waluigi, ce serait rigolo s'il l'offrait gratuitement en fin de truc,
voilà,
en mode haha MDR. Tout le
monde t'ajoute un personnage, alors, sauf peut-être, je sais pas, Skull Kid qui est hyper populaire.
Ouais, Skull Kid est un bon candidat, je trouve.
Je le vois bien en passe, tu vois. Mais un personnage comme.
Ou un personnage des Mario et Luigi comme Gorgamona ou.
Ah ouais, là, ça serait fou là. Mais tu vois, on nous mettrait, j'imagine un truc complètement débile, hein, mais le Mario de Super Mario Maker 2, je trouve que ce serait méga abusé.
Ou, ou bêtement Paper Mario.
Ouais, bah, je trouve que ce serait abusé. Encore que Paper Mario.
Paper Mario, je pense que c'est beaucoup moins abusé que celui de Mario 2.
Ou alors tu fous Paper Mario, Paper Peach, tu vois.
En vrai, au lieu de mettre même Mario de Mario 2, la bonne solution c'est de mettre Toad, parce que Mario 2 est un des rares jeux dans lequel Toad est jouable, et tu peux reprendre du coup cette mécanique de prendre les gens et les lancer comme ça, même si techniquement c'est une chope. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça si tu intègres Toad de cette manière. Bon.
Et puis je pense qu'on aura quand même, et je l'espère secrètement malgré tout, même si je trouve que ce serait abusé, un Pokémon de la 8e génération, bien évidemment.
Ça va être comme Minecraft, hein. Ça va être on s'y attendait un petit peu et puis on sera émerveillé, je pense, par ce qu'ils auront réussi à faire avec.
Je suis pas sûr, parce que pour un season pass, c'est ce que je dis, ce serait abusé, quoi, parce que c'est tellement attendu et c'est pas surprenant. Ça va être dur quand même de passer derrière Minecraft, honnêtement. Ouais. Bah, c'était qui déjà le premier? C'était Min Min de Arms. Qui était pas forcément surprenant, mais comme c'était surprenant qu'elle soit pas déjà dans le jeu de base, Du coup, il y avait eu un petit retour de
suspense.
Surprise.
Il y avait un suspense et je pleure toujours le fait que Twintel n'est pas rejoint. Elle est fun quand même à jouer, Min, donc je vais pas
j'ai trop de mal. J'arrive pas du tout.
Bon, bah voilà. On se retrouve au prochain épisode.
Ouais.